bien sûr Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et oui, vous êtes bien sûr Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique, le magazine culturel qui passe du coq à l'âne sur le 94 FM à Toulouse ou en streaming, où vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde. Nous sommes jeudi 20 juin, il est 18h01. Rien à voir quoique reprend son heure habituelle de diffusion sur les ondes de Campus FM en direct dans nos studios. Derrière la vitre, c'est Thomas qui est à la réalisation technique de l'émission. Merci Thomas. On est ensemble jusqu'à 19h dans Rien à voir quoique. Année après année, les siestes électroniques essaient de susciter, je cite, la curiosité de leurs spectateurs et de continuer à représenter un événement à part, festif, agréable, simple et ouvert, mais aussi qu'intransigeant. Gratuité, absence de mur pour enceindre l'événement, présence au cœur de l'espace public, les siestes électroniques relèvent de la proposition, de l'invitation et se laissent découvrir à qui fera l'effort de quelques pas. Elles s'offrent sans autre contrepartie qu'un plaisir partagé pour la découverte. La 18e édition toulousaine du festival se tient du 26 au 30 juin, la semaine prochaine donc, dans le jardin qu'on pense Caffarelli, mais pas que. Et pour parler de cette nouvelle édition du Festival des Siestes, je reçois, car je vais être toute seule tout au long de l'émission, Jeanne-Sophie Faure, chargée de la communication des partenariats privés. Bonsoir Jeanne-Sophie.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Campus FM. Alors, sur le site des siestes, pour présenter cette dernière édition, on peut lire ce projet, les siestes l'ont chéri et continuent d'y croire. Or, l'actualité de ces derniers mois ne peut nous laisser indifférents. Aussi, avons-nous tâché cette année de présenter un programme équilibré, aussi agréable que réflexif, qui pointe de manière sensible, légère mais réelle, les responsabilités, y compris sonores, qui sont les nôtres. Jeanne-Sophie Faure, quelles sont vos responsabilités, y compris sonores, pour les siestes électroniques ?
Alors, je précise qu'il s'agit là de l'éditorial de Samuel Aubert, le directeur artistique du festival, qui chaque année s'exprime sur la manière qu'il a d'appréhender chacune des éditions. Et je pense qu'en fait le projet des siestes électroniques à la fois repose évidemment sur la musique et à la fois sur la conscience de quelle est la place de la musique dans un contexte de société, et en l'occurrence celle du festival qui consiste à rassembler des gens et qu'on souhaite les plus divers possibles. Et je pense que c'est là le projet politique dont il est aussi question dans cet éditorial. C'est l'idée de rassembler effectivement des profils de personnes qui n'auraient pas forcément eu l'intention de venir découvrir des musiques si, par exemple, le festival avait été payant ou s'il avait été en dehors du centre-ville, difficile d'accès. En l'occurrence, on est dans un jardin public.
Sans barrière. Il fait de la gratuité. Et quoique, parfois, il y a des événements gratuits, mais il y a quand même des barrières, beaucoup de sécurité, ce qui est pas le cas.
Oui. Alors, en l'occurrence, aux siestes électroniques, on va dire, il y a les barrières naturelles qui sont les immeubles, en fait, qui sont autour du jardin. Et ensuite, il y a aussi de la sécurité, évidemment, parce que c'est le principe à chaque fois qu'on reçoit énormément de monde dans une manifestation. Mais on veut pas forcément qu'elle soit ostentatoire, justement, pour donner l'impression, en tout cas le sentiment, que cet événement est un moment comme une bulle de détente qui arrive, qui est une opportunité où on peut vraiment se concentrer sur ce que cet événement a de social, donc un rassemblement de personnes, et de festif, donc autour de la musique et le côté exceptionnel, en fait.
Alors, vous répondez à ma deuxième question, mais je vais quand même citer Samuel parce que je trouve qu'il écrit très bien. Les musiques de danse, notamment les musiques électroniques, tout comme les festivals, relèvent fréquemment notamment d'un projet d'hédonisme politique, conscient ou non. Alors je rappelle que l'hédonisme en philosophie se définit comme le bonheur reposant sur le plaisir et l'évitement de la souffrance. Qu'entendez-vous par projet d'hédonisme politique? Ils sont des termes un peu antinomiques, vous y avez partiellement répondu.
Oui. Bah, je pense qu'en fait il est question de faire société à un moment donné. Donc peut-être une société, le festival est comme une petite société utopique, qui rassemble les gens pour le seul motif de la musique. Je rappelle cette question de... Quand je dis les gens, en fait, c'est les publics tout aussi divers que possible. On est ravis de voir qu'on peut avoir des personnes âgées, mais aussi des familles avec des enfants en bas âge, qu'on peut avoir évidemment les étudiants, les jeunes qui sont en général très friands de sorties estivales, mais aussi des personnes en fait qui viennent soit parce qu'ils connaissent la musique, soit parce qu'ils souhaitent la découvrir, avec des intentions très diverses. Et donc c'est quelque chose qui compte pour nous. Cette idée de ne pas filtrer en fait, et la gratuité est un palliatif contre cette filtration, parce qu'en fait la plupart des événements, les gens quand ils doivent acheter un billet se posent la question de est-ce que mon argent vaut le coup d'y aller.
Alors comment c'est une question que je voulais poser plus tard, mais finalement comment vous arrivez toujours en 2019, 18e édition, à faire un festival gratuit?
Eh bien, ça demande déjà d'avoir une gestion de nos comptes très scrupuleuse en premier lieu. En deuxième lieu, je dirais qu'il faut aussi qu'on sensibilise nos festivaliers quant au fait que en fait cette gratuité elle est apparente parce que les artistes sont payés, les équipes qui travaillent pour le festival sont payées. Évidemment, on a énormément de bénévoles et d'adhérents qui nous soutiennent et qui sont salutaires, mais il faut quand même qu'on trouve des fonds et que le public grandissant d'année en année fait aussi augmenter ses exigences, et si on souhaite les financer, il faut qu'on arrive à les impliquer. Et donc on diversifie nos activités, donc on est présent pas seulement à Toulouse mais ailleurs. On a lancé aussi un projet d'édition qui nous rapporte pas beaucoup d'argent, mais qui en tout cas nous qualifie et nous aide à être visible par d'autres, on va dire, financeurs, d'autres institutions. Et le troisième, en fait, qui est Blockchain My Art, qui est un projet en fait qui est né conjointement avec d'autres festivals, et dont l'idée en fait est de communiquer au public sur le fonctionnement d'une manifestation comme la nôtre ou comme d'autres manifestations, et qui prennent conscience en fait de sur quelle économie en fait reposent nos manifestations et quel est leur rôle au sein de cette économie-là.
Donc ça c'est une application où on peut voir votre budget en toute transparence.
Exactement. C'est l'idée. Voilà, c'est que chacun, en tout état de conscience, sache s'il dépense telle somme pendant le festival, comment cet argent est redistribué et à quoi il sert concrètement.
Vous voulez dire sur le bar, la restauration?
Alors la restauration, oui, d'une certaine manière, parce qu'en fait on fait appel à des prestataires, mais la somme qu'ils nous donnent est redistribuée également. Et donc en fait, en temps réel même, les festivaliers peuvent voir en fait les flux financiers de la manifestation et en même temps leur répartition. Donc la répartition, ça va être les cachets artistiques, et puis ça permet aussi aux festivaliers de voir qu'en fait faire un festival, ça demande beaucoup de travail, ça demande aussi des compétences, des métiers très spécifiques. Donc ça permet aussi aux festivaliers finalement de voir un peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du rideau.
C'est-à-dire... Vous avez déjà des réactions? Ça existait l'année dernière?
Alors, ça existait l'année dernière, mais on était en version, on va dire, bêta. On est toujours en version bêta, mais plus. Parce que c'est lourd aussi, en termes d'ingénierie, de créer une application. Surtout une application qui repose sur la blockchain. Enfin, bref. C'est, donc là,
les premiers retours qu'on a, c'est des retours qui nous poussent en fait à continuer ça, surtout sur la question du discours et de la consommation consciente.
Donc les festivaliers seraient plus responsabilisés, plus respectueux, plus... conscient simplement.
C'est ça. Je pense que ça peut pas toucher 100% des festivaliers, parce que certaines personnes ne sont pas forcément vigilantes de ce qu'elles consomment en fait de manière générale. En revanche, je pense que ça participe d'un mouvement chez plusieurs, on va dire, individus, que ce soit en France ou à l'étranger, qui consiste à en fait à être vigilant sur en fait, comment, à quoi sert l'argent, comment est-ce qu'il est dépensé et à quoi il sert auprès de la société. Et enfin, est-ce que cet argent-là, en fait, bénéficie véritablement au festival? À qui, au sein de ce festival, il bénéficie, auprès de qui il bénéficie réellement? Et donc, voilà, ça, s'ils savent à quoi sert leur argent, on suppose qu'ils seront plus à même de souhaiter nous soutenir.
Même si le festival est gratuit. Donc
Et donc, en fait, bah, pour soutenir le festival, il y a deux options. Soit adhérer à la manifestation ou devenir mécène, s'il y a des entreprises qui nous écoutent. Ou consommer au bar. C'est une manière plutôt sympa de soutenir une manifestation.
Cette année, donc je l'ai dit, c'est la 18e édition du festival, un festival connu et reconnu internationalement. Est-ce que chaque édition est un nouveau défi à réinventer ou pouvez-vous un peu vous reposer sur cette notoriété?
Il y a un peu les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entièrement se reposer sur notre notoriété parce que il y a un besoin de renouvellement, puis surtout par rapport aux questions qu'on se pose, qui sont celles de qu'est-ce que la musique aujourd'hui, sociologiquement, artistiquement, économiquement, la société évoluant, il faut aussi que nous on évolue en tant que festival. Et en même temps, évidemment, après 18 ans, on est identifié d'un certain nombre d'acteurs et d'actrices du réseau, de financeurs et de financeuses, enfin de structures. Et donc, évidemment, on a un travail qui est à faire au début, qui n'est plus à faire aujourd'hui. Et donc, ça nous permet aussi de développer d'autres projets annexes et aussi de pouvoir développer ces projets grâce à la notoriété qui nous permet d'être reconnus.
Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. On va parler de la programmation. Vous définissez le festival, alors ce n'est pas le meilleur, faut bien écouter chers auditeurs, les siestes n'est pas le meilleur festival du monde parce qu'il correspond exactement à votre goût, les festivaliers, et que vous allez y voir tout ce qui compte pour... Oh là là, tout... C'est trop dur les textes de Samuel. C'est tout l'inverse. Les siestes invitent au désaccord. Le plaisir des festivaliers n'y étant pas garanti, tout peut arriver. Ainsi, jeudi 27 juin, ce sera à 20h. On pourra écouter par exemple Ben Chemi. Vous appelez ça de la minimal wave post-tropicale. Le lendemain, vendredi 28 juin à 20h30, c'est au tour de Slickback de proposer une techno hyperventilée. On écoute Skara sur la playlist Extra Stuff One de l'artiste. Alors je cite Samuel Aubert. Cet artiste incarne le futur en proposant une techno dynamique loin des DJ sets sous anabolisants que l'on nous sert trop souvent sous nos latitudes. À quoi fait-il référence ?
Alors, il fait référence, à mon avis, à de nombreuses choses.
Je n'en doute pas.
Déjà, les latitudes, je pense qu'il fait référence au fait que Slickback vient du Kenya, qui fait partie de la scène actuelle en musique électronique de l'Afrique de l'Est. Il est notamment sur un label qui s'appelle Niégué Niégué, qui est un label qui est à la fois porté par... qui est porté par quelqu'un qui développe à la fois ce label-là et un festival vers lequel convergent énormément d'artistes de la scène contemporaine, mais aussi traditionnelle africaine. Donc, il y a un festival très intéressant. Et Slickback, en l'occurrence, est encore peu venu en Europe. On a la chance de l'avoir chez nous. Donc, je pense que déjà, il fait référence à ça. Et puis après, ben, les DJ sets sous anabolisants, je pense que c'est sa manière un peu provoque de dire que certaines, enfin assez souvent, les artistes en fait piochent à peu près dans les mêmes répertoires et ça peut tourner éventuellement en rond. Et en l'occurrence, Slickback vient avec des sons qui lui sont propres et qui insufflent une forme de renouveau.
Samedi 29 juin, dès 8h30 du matin, dès Potron Minet, Soto Fête propose un DJ set ésotérique. On écoute Love is Alright. Jeanne-Sophie Faure, vous parlez de DJ Soto Fête, d'un DJ un peu à l'ancienne.
Alors, c'est Samuel qui en parle de DJ un peu à l'ancienne.
On aurait dû inviter Samuel.
Mais cela dit, je peux tout à fait commenter. C'est un personnage assez intéressant. Il est très difficile à faire venir dans les festivals. Et de manière générale, il est... plutôt réticent au business de la musique. Donc il y a certains de ses disques qui sortent en un exemplaire, un vinyle. Donc sa musique est, on va dire, difficilement accessible, on va dire, pour toutes les personnes en fait qui souhaitent en s'en faire de l'argent. Mais par ailleurs, en fait, je pense qu'il est assez, même plutôt très généreux, en fait, en matière de découverte musicale. C'est un excellent DJ quand on écoute en fait ses différentes sélections dans différents genres, parce qu'il s'intéresse à la fois à l'ambiance, à la techno et à la house, qui sont quand même trois genres très très importants. À chaque fois, il va faire des DJ sets. Très saisissant, intelligent, et donc en fait on est ravis de l'avoir sur une matinée pour un réveil en 3 heures.
De 8h30 à 11h le samedi.
Oui, voilà, parce qu'on est persuadé que ça va être un excellent moment.
Alors comment vous l'avez fait venir si ce monsieur n'aime pas trop les festivals, se montrer ?
C'est un mystère.
On ne saura pas tout.
C'est...
On parle de toutes les cultures, de rien avoir quoique.
sol la mi sol fa mi fa do fa.
Sur Campus FM 94 FM. On est toujours en direct sur Campus FM avec Jeanne-Sophie Faure pour nous parler, pour nous détailler la programmation de cette 18e édition du Festival des Siestes Électroniques qui est donc au lieu cette année du 26 au 30 juin, toujours au jardin Compense Caffarelli, mais pas que. Alors les siestes, je crois que, je sais pas si on a eu tous les ans, mais c'est aussi du hip-hop. On va écouter Bibai Mouta, lui il est à découvrir samedi.
C'est elle.
Pardon, elle est à découvrir samedi 29 juin à 20h.
I wanna chain, ain't wanna change. I wanna party with Madonna, but that's probably where the lame lane. I wanna extra fucking row up in my backseat. I got the devil on my shoulder, he gon' gas me. I'm the realest bitch, I see the fake, I let it pass. You don't get it, please stop acting like you with it. Fuck these niggas and they fancy ass weed. I like cocaine, burning me alive and you just adding extra propane. Pay for this exposure with my talents, not my pockets, not my face. On the internet, my feelings in my locket. Niggas know that I'm a star, they wanna use me for they profit. Minimize my confidence and maximize they wallet. I ain't rich and I may never be, but baby, I'd rather be broke than be your wannabe. They can't kill me, they can't clone me, only one of me. I don't believe in you bitches, I never needed you bitches. I got my fucking self.
Alors le rap n'est plus un continent mais une véritable galaxie qui fait partie de la galaxie électronique forcément.
Oui, enfin
pas forcément.
Si, mais dans la mesure, enfin ça dépend de la définition de la musique électronique qu'on donnera, mais dans la mesure où le hip-hop aujourd'hui dépend beaucoup de ses producteurs et que les producteurs sont aussi des producteurs de musique électronique. Et que c'est des milieux qui peuvent tout à fait dialoguer. Je pense qu'ils font partie de la même galaxie. En tout cas, c'est oui, c'est tout à fait envisageable.
L'année dernière, vous aviez de la musique classique. Vous aviez des choses vraiment des styles du jazz, des styles très différents. Là, cette année, on est dans l'électronique.
Il y a de l'électronique. Ben Chimie, on peut le mettre dans l'électronique.
On a écouté tout à l'heure.
En fait, la musique électronique, c'est quelque chose qui peut absolument tout englober.
Bah, je parle des siestes, en fait.
Oui. Effectivement, on n'aura pas un récital comme on en a eu un l'année dernière, au piano. Quand on regarde de près, finalement, chaque artiste invité est très singulier dans sa proposition. Même si on l'a filé à un genre, il n'est pas forcément le plus représentatif de ce genre-là, mais en tout cas, il est peut-être représentatif d'une certaine émancipation de ce genre-là. De quelque chose où il y a quelque chose d'expérimental chez tout le monde, chez tous les artistes invités. Et je pense qu'ils se revendiquent même pas forcément des genres auxquels on les associe nous.
Nous.
C'est-à-dire les siestes où on essaye de qualifier leur musique pour que les gens s'y retrouvent avant de venir, qu'ils sachent un petit peu à quoi s'attendre. Mais en vérité, quand on les écoute, on n'entend peut-être pas forcément du hip-hop empowered comme on l'a qualifié.
Dimanche 30 juin, autre style, toujours dans le jardin Compense Caffarelli, à 9h30, Perrine en morceaux s'exerce à la chanson audio naturaliste. C'est très court.
Je est un chien que je tiens en attente. Six points, trop naissant, trop de faim. Siècle, le vin, c'est sans fin, s'il vous plaît, naître sans le un, ça dit rien du vide de l'être mort ou chiffre nul part où devient, prends ma main, tenant si tu m'en dis rien.
Alors c'était Perrine en morceaux, vous appelez ça de la chanson bio-naturaliste ?
Alors non.
Non ?
Alors en fait, ce qu'on entend là, c'est ces productions qui datent d'avant le festival. Et évidemment, là, elle vient avec un projet très spécifique qui colle particulièrement bien avec notre matinée autour des chants d'oiseaux. Parce qu'elle a le projet, justement, de faire son prochain album autour des chants d'oiseaux. Donc en fait, il n'existe pas à l'heure actuelle de moyen d'écouter ce qu'elle produit autour de ça. On va le découvrir en même temps que tout le monde. En tout cas, la question de la musique bionaturaliste ou ornithologique, selon comme on décide de l'appeler, nous était chère cette année. Et il se trouvait que inviter Perrine en morceau, qui d'ailleurs, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, est quelqu'un qui expérimente beaucoup dans la question de par exemple du chant, c'est-à-dire que c'est une chanteuse, mais elle aborde la chanson. À sa manière donc elle est tout à fait autonome dans son genre personnel, et donc justement la question du chant d'oiseau en dialogue avec le fait qu'elle est chanteuse nous interroge beaucoup.
On a hâte de voir ça. Donc ça, c'est 9h30 le dimanche 30 juin. Alors ce morceau, quand même, je l'ai trouvé sur une playlist.
Oui.
Votre playlist que vous avez, c'était un peu pour teaser l'événement. Oui. Ça, c'est la première fois que vous faites ça?
En fait assez régulièrement. Alors on les fait pas toujours sur Spotify. On peut les faire sur les différents lecteurs qu'on trouve les plus pratiques selon ce qu'on peut trouver aussi.
Donc là, effectivement, vous mettez des morceaux qui sont
des artistes invités, mais pas forcément ce qu'ils
veulent faire pendant le festival. Alors dimanche à 19h, vous proposez une performance d'Ode Bongo. Vous appelez ça de l'électronica tribal, toujours dans le jardin Compense Caffarelli. On écoute Mister. Alors j'ai hésité, est-ce que c'est 20 ou 2.0
1.
Alors on vient d'écouter Ode Bongo, un mot sur cet artiste, Chêne Sophie Fort. Alors vous dites, on en remet une couche, dense, épaisse, concassée et noire, au cœur du paradigme techno, on retrouve encore et toujours son essence industrielle.
Oui, alors on dit Ode Bongo, oui, il y a quelque chose de très industriel dans ces sons rythmés très secs, comme ça. C'est des artistes qu'on suit aussi via notre plateforme Shape, qui est notre réseau européen. Je ne sais pas si on l'a déjà abordé dans cette émission.
L'année dernière. Rappelez-nous ce que c'est que Shape. C'est une plateforme collective de partage d'artistes.
De plusieurs. De plusieurs festivals qui sont chacun dans différents pays européens. Et partant du principe que on ne connaît pas forcément l'actualité brûlante de ce qui se passe dans chaque pays d'Europe. On a beau être dans le même continent, Si on interroge quelqu'un sur qu'est-ce qu'on connaît finalement de la musique polonaise ou lettonne, on saurait pas forcément répondre comme ça facilement. Et donc tout un réseau de festivals européens qui sont assez semblables au Sieste, donc qui sont soucieux d'une certaine réflexion autour de la musique et d'expérimentation, se sont rassemblés et ont décidé de fonder cette plateforme qui nous aide à chacun découvrir en fait ce que les uns et les autres ont sur leur propre territoire. Et on est soutenu par l'Europe qui nous permet en fait de faire circuler ces fameux artistes. Et donc, il y a chaque année 48 artistes qui sont soutenus. Et pendant l'année, chaque festival s'engage à produire au moins 3 de ces artistes-là. Donc nous, en l'occurrence, cette année, on en a 7. Mais voilà. Et donc, Audi Bongo en fait partie.
Donc c'est... Et à l'inverse, par cette plateforme, vous découvrez d'autres artistes.
Et ben justement, d'ailleurs. On a découvert Audi Bongo grâce à la plateforme.
Alors, on vient de parler de la programmation. Hein, c'est encore une programmation très aventureuse. Et j'aime bien le dire aussi, sans tête d'affiche. Donc ça, c'est oui, toujours.
Toujours. Déjà, c'est très subjectif, la question de tête d'affiche, selon quel public on est. On va avoir des publics de passionnés de musique techno qui peut-être connaîtront Slickback et Audi Bongo avant de venir. On aura peut-être des publics plus house qui vont savoir, et puis non, c'est quand même quelqu'un d'assez connu, mais qui vont être attentifs à Tequila Tex, par exemple, qui à travers ses différents projets avec TTC, etc., a quand même bénéficié d'une belle visibilité médiatique. Mais peut-être Tequila Tex ne sera pas du tout connu des gens en fait qui suivent l'actualité de Perrine en morceaux. Donc c'est cette question de la tête d'affiche au Sieste a pas vraiment de sens, parce qu'en plus on a volontairement très peu d'artistes, parce qu'on part du principe que, vu que notre cœur d'activité c'est la découverte, ça demande quand même pas mal d'attention. Et donc si on souhaite que les gens découvrent chacun de ces artistes là, il faut qu'ils soient attentifs à chacun d'entre eux, et cette attention-là est assez précieuse, parce qu'au bout d'un moment, en fait, on se lasse. Et si on faisait des têtes d'affiche, les gens n'auraient aucune velléité à la découverte, parce que ils iraient voir les artistes qu'ils connaissent, et une fois qu'ils les ont vus, les autres artistes sont là pour combler les trous. On a cette perception-là du fonctionnement de nombreux festivals, qui est une perception qu'on a, nous, en tant que festivaliers dans ces festivals-là, et qui est assez frustrante. Parce qu'en fait, on se rend bien compte que nous-mêmes, on va dans une manifestation pour laquelle on a déboursé de l'argent, et qu'on repère 2 ou 3 noms d'artistes qu'on apprécie, on aura tendance assez spontanément d'aller voir ces artistes-là plutôt que les
Ce
artistes
qui a l'air
qu'on
d'être connu. Toujours le cas.
Ce qui a l'air d'être assez souvent le cas. Et donc, on essaye de faire une manifestation qui répond, en fait, à ce constat-là, qui est... en fait, tous les artistes comptent. Si on les a choisis, c'est parce qu'en fait, on les trouve tous aussi intéressants les uns que les autres. Comme je vous disais tout à l'heure, ils expérimentent tous à leur manière depuis le genre musical qui les intéresse et ce que eux ils font musicalement. Et donc en fait, on voit pas pourquoi on en mettrait un en tête.
Est-ce que sur les 18 années, il vous est arrivé de faire revenir un artiste plusieurs fois?
Oui, ça nous est arrivé. On a quelques artistes comme ça. Il y a eu Aqua Serge qui sont venus 2 fois. On a Mondkopf aussi qui sont des gens en fait qui ont une certaine proximité en fait avec notre état d'esprit. Et donc dont on suit en fait encore très attentivement le travail et avec qui. Oui, il y a une bonne entente de manière générale, et donc on les réinvite volontiers dès qu'ils ont un nouveau projet sur la table à nous présenter.
Merci, Jeanne-Sophie.
Mieux vaut penser à rien qu'une pas pensée du tout.
Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique.
Rien c'est déjà beaucoup.
La 18e édition des siestes électroniques, c'est la Non, pas la, si, c'est la semaine prochaine. Du 26 au 30 juin. Jeanne-Sophie Faure, pour ouvrir le festival, vous proposez cette année la projection d'un documentaire.
Oui.
Qui est à voir,
à l'American Cosmographe.
Merci, à l'American Cosmographe, pardon. Il s'appelle Le premier mouvement de l'immobile. Il est sorti en janvier 2019. Pour le plaisir de la langue italienne, on écoute un très court extrait.
Quando la malattia è al culmine, Chelsea si mette al pianoforte e suona per mesi e mesi la stessa nota, confermando così il verdetto dei medici, persuasi che stia precipitando nella follia. In realtà è proprio allora che inizia a sondare l'universo di un unico suono. Nella sua musica non cerca più il movimento orizzontale di una composizione di note, ma un'immersione verticale nella vibrazione. Adesso, quando accetto la vertigine che scatena dentro di me, mi sento anch'io pronto ad affondare senza paura nelle profondità del suono.
Ho contattato il piano devico alcune volte, ma non quello assoluto nel quale il suono vive nella sua essenza cosmica e creatrice.
Donc c'était le premier mouvement de l'immobile, un documentaire de Sebastiano Ayala Valva sur le compositeur, je parle pas italien moi.
Giacinto Chelsea, mais moi non plus.
Pourquoi le choix d'un documentaire en avant-première? L'année dernière c'était un concert.
Oui c'est vrai, l'année dernière c'était un concert. Disons que ça fait plusieurs années que on travaille avec l'American Cosmographe. C'est pas la première fois qu'on a un documentaire en fait en ouverture au festival. Et celui-ci nous paraît particulièrement intéressant parce que pour le coup c'est donc autour d'un compositeur, Giacinto Chelsea. Je ne suis pas italienne non plus. Et ce compositeur est un personnage très singulier. Et le réalisateur, en fait, était un membre de sa famille qui était très jeune, en fait, à l'époque où son aïeul, je ne sais plus quel est leur lien de filiation. Et donc, il était très inquiet par la musique de son aïeul. Et je pense que ce film retranscrit bien, en fait, le côté très solitaire de ce personnage et en même temps tout le génie de ce compositeur qui d'ailleurs ne se revendiquait pas compositeur parce qu'il pensait que cette musique lui venait de l'esprit du divin et que lui ne faisait que la retranscrire sur des bandes magnétiques. Et donc en fait ces fameuses bandes d'ailleurs sont la matière première du film. C'est un compositeur avec un parcours très particulier, qui a fréquenté énormément de personnalités du début du XXe et qui s'est concentré sur une seule note à un moment donné. Donc il a envoyé bouler en fait tout son travail très académique de ses jeunes années lorsqu'il avait appris la musique. Et il a complètement désappris, en fait, déconstruit son apprentissage pour se concentrer sur l'onde, sur la vibration, sur le son.
Est-ce que c'est un... Ça rigole. En régie, est-ce que c'est un film que vous auriez pu projeter dans les jardins, par exemple, dans le jardin?
Oui, mais après, je pense qu'on...
On perd...
Ouais, en fait, c'est toujours possible. C'est-à-dire que les projections en plein air sont souvent très bien. Mais ça demande une logistique. Peut-être que déjà, on n'a pas la capacité à assumer, et puis c'est très bien en fait dans une salle de cinéma.
Tout à fait. Donc ça c'est mercredi 26 juin à 20h30 au cinéma American Cosmographe au prix de 4,50 €. Et puis cette année, alors vous proposez une soirée, 1969, La Nuit Blanche, La Nuit Américaine.
Oui.
J'ai lu les deux.
Oui, les deux sont possibles.
Très bien. Donc ça se passe dans le grand hall du Théâtre de la Cité. C'est une soirée gratuite, mais attention, il faut réserver, ça doit être une histoire de jauge.
Oui, tout à fait.
Donc c'est en partenariat avec le Marathon des Mots. L'idée, c'est de balayer sur le dance floor le chant des musiques américaines de 69 à 89. Donc ça, c'est aussi, je l'ai déjà dit, non, samedi 29 juin, de minuit à 5h du matin. C'est une nouveauté cette année? Alors, en fait, moi, je connais que deux éditions des siestes, donc.
Alors, c'est la deuxième fois qu'on travaille avec le Marathon des mots, puisque l'année dernière, le spectacle de clôture était en partenariat avec eux. Et c'est pas la première fois qu'on fait une soirée de nuit, mais par contre, c'est la première fois depuis quelques années. Faute de moyens, d'autorisation, de lieux, de plein de choses qui ont fait que ça a été rendu difficile. Et on est ravis, en fait, de pouvoir à nouveau avoir un volet nocturne qui, en plus, cette année est assez chouette parce qu'en gros, le concept derrière cette soirée, donc enfin, déjà, c'est de coller à la programmation générale du Marathon des mots qui est d'interroger l'Amérique. Et là, en l'occurrence, on a Tim Lawrence, qui est un auteur, mais qui est aussi DJ, qui s'intéresse particulièrement aux folles années plutôt les années 70-80 à New York, dans des clubs mythiques que sont le Studio 54 ou le Paradise Garage ou les Loft Party. Où en gros, c'est là que toute la décadence et en même temps toute la folie de la musique house, électronique, funk a émergé et qui aujourd'hui est un emblème dans le reste du monde qui continue à inspirer. Et donc en fait l'idée c'était d'interroger ça et donc d'inviter en fait des figures qui nous semblaient importantes, et donc notamment Patrick Vidal et Tim Lawrence, et on a en ouverture donc Graal et en clôture Yom, qui sont eux aussi des DJ à chacun à leur manière très investis et puis parfois même militants voilà, c'est une soirée qui promet d'être chouette.
Donc la partie des marathons des mots, c'est en amont de la soirée, au voilà, cœur de la cité.
Exactement. Et en fait, à partir de minuit, les siestes électroniques en fait investissent le hall. Et puis c'est un lieu qui est assez inspirant. C'est-à-dire qu'on est là. C'est pendant longtemps, moi je suis passée devant en me disant que c'était froid, ces vitrines comme ça, toujours sombres. Et de se dire qu'en fait là, ça va être un club éphémère. C'est assez fascinant. Donc l'idée était séduisante.
Est-ce que c'est une proposition du nouveau directeur artistique du Théâtre de la Cité ?
Oui, c'est tout à fait en cohérence avec sa volonté de rendre ce lieu vivant, justement.
Et ouvert.
Oui.
Il y a aussi des ateliers, donc ça il y en a à chaque fois, pour faire de la MAO, la musique assistée par ordinateur, avec un thème assez large, volontairement vous dites, faire et diffuser la musique avec les outils de 2019. Alors, sans forcément rentrer dans la technique, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe en 2019 avec ces outils et la façon diffuser.
On a la chance d'avoir toute une histoire d'inventeurs qui ont chacun créé leurs propres outils. Et donc en fait, les outils de 2019, c'est à la fois ceux qui ont précédé. Donc là, par exemple, on va proposer de fabriquer un theremin à celles et ceux qui le souhaitent. Donc c'est des ateliers sur inscription. Et donc on peut repartir chez soi avec son propre
gros atelier de 3 heures.
Ouais, de 3 heures, parce qu'en fait le theremin est un des plus anciens instruments de musique électronique. Et on a un intervenant qui propose donc de payer simplement les matériaux bruts, donc 20 €, et de repartir chez soi avec le theremin. Donc ça, c'est une des formes donc de découverte, parce qu'on voit comment on peut fabriquer un instrument de musique. C'est une approche très 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 intéressante d'un point de vue pédagogique. Et après, il y a la possibilité de venir soit avec son propre matériel et donc faire... Donc là, ça sera pour des publics un peu plus initiés, donc ce qu'on appelle des jam sessions où les uns et les autres souhaitent s'exprimer. Donc la volonté, c'est que ça soit spontané. Et sinon, apprendre à se servir des logiciels en fait avec lesquels on modifie le son. Donc là, c'est plus grand public et même les enfants peuvent venir jouer avec les contrôleurs.
Est-ce que vous avez les dates des ateliers, car je ne les ai pas notées?
C'est samedi et dimanche de 14h à 16h.
Et donc il faut s'inscrire juste pour le...
Juste pour l'atelier theremin, et les autres on vient comme on est, avec ce qu'on a.
Alors il y a des écoutes commentées, notamment par Étienne Menu. Donc c'est le rédacteur en chef de votre nouveau média de recommandations musicales quotidiennes en ligne. Il s'appelle Musique Journal. Ça se passe le samedi à 17h autour de la scène indé toulousaine des années 70. Alors pour le moment, Musique Journal, c'est une sorte de blog en accès libre, sans publicité, avec le soutien des lecteurs. C'est un pari. L'idée, vous dites, c'est de fabriquer un média musical d'un nouveau genre, d'inventer une formule qui, selon vous, manque à votre paysage francophone. Jeanne-Sophie Faure, les siestes, c'est de l'invention en permanence.
Oui. Depuis 8 ans. Disons que les artistes expérimentent et puis nous, on expérimente autour de ça.
Alors ce nouveau média Musique Journal.
Eh bien, ce média-là, c'est comment dire, il est né de plusieurs volontés. En fait, on s'intéresse à la musique en permanence, sous toutes ses formes. Et donc, voilà, le festival montre les artistes qu'on a repérés dans l'année et qu'on voulait absolument montrer. On a édité une revue qui s'appelle la revue Audimat, qui paraît tous les 6 mois, qui a des textes assez précis, long format. C'est une revue assez savante, mais qui parle de la musique populaire. Et donc là, cette revue s'interroge, qu'est-ce que c'est que la musique finalement dans la société, voilà, quelles sont les nouvelles créations, qu'est-ce que la musique dit en fait aujourd'hui dans le monde, dans la société. Et ensuite, on aura Musique Journal, qui est en fait une formule déjà quotidienne, donc un jour un disque, du lundi au vendredi. Et un jour une découverte, toujours avec l'idée qu'on va pas publier deux artistes ou albums dans la journée, parce qu'on se dit que déjà avoir fait une découverte par jour toute l'année, ça fait pas mal de découvertes.
365.
Voilà, moins les week-ends, donc du coup. Mais voilà, et ça vient d'une forme de manque.
Il y a un texte qui accompagnera.
Alors à chaque fois il y a un texte, souvent rédigé par Étienne Menu, et donc là l'écoute commentée qui aura lieu au sieste. Donc Étienne Menu, le rédacteur en chef, sera présent. Il s'interrogera sur les studios Tangara qui étaient des studios dans les années 70. Il y avait une scène en fait affiliée à ces studios-là, donc des studios qui étaient à Toulouse, si je me trompe pas, au Canal du Midi, non, Barrière de Paris. Je n'étais pas ni à Toulouse ni née à cette époque-là, donc je serais très curieuse de découvrir en fait, selon Étienne Menu, cet univers-là. Et donc l'idée, c'est de se plonger dans des musiques plutôt aujourd'hui qui seraient de niche, parfois oubliées ou mésestimées. Et donc c'est là que ça rejoint Musique Journal, parce que ça fait partie de la ligne éditoriale du magazine.
Il est sorti ce média ? Il va sortir ?
Alors, il est en ligne.
Il est en ligne. Donc, je rappelle, oui, en plus, je l'ai vu, musique-journal.fr.
Voilà, donc on peut s'abonner. Et
oui, vous demandez le soutien des lecteurs.
Voilà, mais alors, en l'occurrence, il existe sous forme de fanzine, qu'on a édité en très peu d'exemplaires pour la sortie. Peut-être qu'on en rééditera une fois de temps en temps. Et donc, actuellement, c'est disponible chez Inner Disc et Vicious Circle, ça j'en suis sûre, et peut-être dans d'autres lieux, je ne suis moins sûre. Voilà.
Un dernier point de cette programmation des siestes 2019, vous proposez une autre session d'écoute de titre audio naturaliste de Moondog. C'est vrai qu'il y a, vous accentuez sur la nature et les oiseaux, mm-hmm. avec des oiseaux sur les affiches, des chants d'oiseaux.
C'est vrai.
Mais allez, je peux finir ma phrase.
Oui, oui.
Donc, Moondog, qui était, il y avait toute une saison sur Moondog à Toulouse qui s'achève d'ailleurs en même temps que les siestes. Cet hommage exceptionnel au compositeur américain. Je n'ai pas pu résister à vous faire écouter quelques sons de grenouilles avec Frog Bog par Moondog, enregistré en 56. C'était un court extrait de Frog Bog par Moondog. Je cite encore les siestes ce matin-là. Il sera question de mieux écouter la musique qui précède celle de l'homme, entre parenthèses, et qui ne lui survivra peut-être pas, ou pour le moins d'interroger notre relation à notre environnement sonore. Est-ce que vous parlez là de la disparition des espèces animales ou naturelles?
Oui, tout à fait, c'est précisément de ça qu'on parle. Il y a énormément de bioacousticiens et d'ornithologues en fait qui alertent les populations sur le fait que il y a des espèces qui sont en train de s'éteindre, et donc c'est un environnement sonore en fait qui est en train de s'éteindre. Et donc le monde dans lequel on vit actuellement, c'est une sorte de photographie, mais qui est représentative de l'instant présent. Et donc ce qu'on se dit en ce moment, sieste électronique, c'est que profitons en fait de ce à quoi on a accès, parce qu'on ne sait pas en fait pendant combien de temps en fait on va pouvoir écouter les chants d'oiseaux qui sont ceux qu'on entend à 5h du matin au lever du soleil, ou ceux qu'on entend toute la journée dans l'espace urbain encore. Donc c'est une petite alerte sur l'écologie, et en même temps qu'on souhaite artistique, parce que les chants d'oiseaux sont aussi de manière très, on va dire, en termes de son, sont très intéressants en fait à écouter, à analyser, à observer et à apprécier.
Merci beaucoup, Jeanne-Sophie Faure, d'être venue faire un tour dans Rien à voir quoique.
Merci.
Alors, donc, je rappelle que la 18e édition des siestes électroniques se déroule du 26 au 30 juin au Jardin Compans Scafarelli, au cinéma américain Cosmographe pour l'ouverture du festival, ça c'est le 26 juin, et puis au Théâtre de la Cité, le samedi 29 juin pour la nuit américaine ou la nuit blanche. Toutes les infos sont sur votre site www.les-siestes-électroniques.com et sur les réseaux sociaux, évidemment.
Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps.
Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Rien à voir quoique, on a encore le temps d'écouter Lou et des états d'âme. Aujourd'hui pour Lou est un jour d'amour.
Aujourd'hui est un jour d'amour. Ton absence est une quête de bonheur. Toi qui fais ton chemin, trace des lignes. Sous le soleil brûlant de Californie, tes rêves se dessinent. Tu prends des directions opposées pour vivre. Une passion dévorante. Et ton âme qui me manque. La tête dans les nuages et le cœur en feu. Un partage de corps brisé, de crainte et de déambulation mentale, incessante, incarnée. Tu me racontes tes joies et tes peines, tes erreurs, sous le soleil brûlant de Californie, le bout du monde pour moi. Je t'appelle, mais tu ne réponds pas. D'autres choses à ranger, à planifier. Mais tu es là. Thank you. Sur le tableau brisé d'un portrait de famille, nous sommes trois. Toi, une petite blonde, l'air boudeur, l'air de manquer d'amour, l'air de prendre sur elle les défauts de famille, et moi. Les autres visages sont gommés, par volonté parfois ou par instinct de survie. Ensemble, on se refait des histoires. On concrétise la violence pour l'extraire, pour en faire de la chair à canon et du carburant pour le moteur. Le soleil brûlant de Californie. Je t'aime et tu me manques. Là-bas, où tout est plastique, symétrique, ton cœur brisé vit. Je t'aime et tu me manques, frère de ma vie.
Et rien à voir, quoique.
Merci beaucoup Lou, Lou qui a fini sa saison à Campus FM Toulouse. Voilà, il est maintenant l'heure de se quitter juste à l'heure. Encore un grand merci à notre invitée Jeanne-Sophie Faure pour les siestes électroniques. Alors je le rappelle, parce que j'aime bien le dire, que donc le festival est gratuit. Et les festivaliers, si vous voulez que cela reste ainsi, ce serait sympa de consommer au bar pour perpétuer cette gratuité. Merci beaucoup Thomas à la réalisation technique de l'émission. Demain matin, nouveau rendez-vous pastèque, la nouvelle matinale de l'été fruitée et savoureuse présentée par Grégoire de 8h à 9h. Et donc sinon, c'est le mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à fin juillet. Chers auditeurs, vous pouvez retrouver le replay de cette émission et de toutes nos émissions sur la plateforme d'écoute Mixcloud de Campus FM. Je vous laisse en compagnie de l'émission tout aussi gourmande New Soul Food. C'est du new, c'est de la food, c'est de la soul. Dans quelques instants, je ne vois pas Malcolm Mike. Très belle soirée sur les ondes de Campus FM.